radiovostok.ch.
Aujourd'hui, on passe à l'ouest. Non, je dirais même qu'on traverse les barrières du monde réel pour atterrir dans la République de Crevetterie, une république animée, régnée par sa Fale Excellence et sa Clite Altesse. Cet univers carnavalesque, haut en couleurs et dépeint par le jeune auteur suisse d'origine camerounaise, Max Lobé, dans son dernier roman, La promesse de sa Fale Excellence, paru en janvier 2021 aux éditions Zoé. Né à Douala, au Cameroun, en 1986, Max Lobé arrive en Suisse à l'âge de 18 ans, 2 ans après l'obtention de son bac. À Lugano, il suit des études de communication et journalisme. Passionné d'histoire et de politique, il suit un master en politique et administration publique à l'Institut des hautes études en administration publique de Lausanne. Il est établi aujourd'hui à Genève. Max Lobé adopte, élabore une écriture rythmée, dialoguée et inventive qui nous plonge instinctivement dans un monde digne des plus grands contes africains. Parmi les distinctions reçues, le prix du roman des romans pour 39 rue de Berne, paru en 2013 aux éditions Zoé, et le prix Amadou Kourouma pour Confidence, paru en 2016 aux éditions Zoé. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio aujourd'hui Max Lobé pour nous parler de la fameuse histoire d'Akadavrita et de sa rencontre avec sa Fale Excellence dans La promesse de sa Fale Excellence. Bonjour Max.
Bonjour, merci de l'invitation.
Mais avec plaisir, c'est toujours un plaisir de recevoir des artistes dans notre studio à Vostok. Bah, pour commencer Max, d'où vous vient le goût de l'écriture et de la lecture ?
Ah, le goût de l'écriture et de la lecture. Je veux dire d'abord de la lecture, et plus que de la lecture, de l'écoute. Tout jeune, beaucoup plus jeune, quand on est un enfant de 3, 5, 7 ans et qu'on ne sait pas jouer ni au jeu de garçon, ni au jeu de fille, ni au jeu de neutre, on est un peu paumé. Et puis moi j'étais toujours dans mon coin et je rêvais. Donc avant de parler du goût de l'écriture, c'est le goût de la rêverie, de ce qui n'existe pas devant moi, en fait, pour dire ce que je vois devant moi, mais avec un langage interne. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis ma mère, peu à peu, qui travaillait dans l'administration publique, hein, pour comprendre aussi mon évolution par rapport à mes études, m'a donné le goût de la lecture. Et puis j'ai découvert, à mes dépens ou pas d'ailleurs, que j'étais écrivain. Donc voilà.
et d'où tirez-vous vos inspirations pour vos livres ?
C'est vrai, ça peut paraître une question banale, mais dans ce type de cadre, pour ce roman, l'inspiration, ici, il y a clairement New York. Moi, je sais que pour certaines personnes, New York, c'est leur porte de, je sais pas, c'est leur toilette, ils y vont, ils sortent. Ils... Enfin, voilà, moi, j'avais été envoyé à New York par Pro Helvetia pour une résidence d'écriture. Et donc, je découvrais New York pour la première fois de ma vie. C'était il y a 2 ans, en 2019. Et je me dis, mais comme c'est phallique, comment est-ce qu'on fait pour phalangorger ou déphalangorger ce type de bâtiment? C'est énorme. ne parlons même pas pour la double. Et donc... Et donc de là, j'ai commencé à mimer. Là, il faut dire que la musique est très importante. Falan, 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 excellence. Hein, ça falan. Avec un rythme, une cadence bien africaine. Puisqu'on parle d'inspiration et que je veux me limiter au-delà de l'architecture à la musique, cette rythmique africaine avec Didier Arafat, par exemple, le jeune Didier ivoirien qui est décédé récemment. Il peut tout aussi bien m'inspirer que les variations de Goldberg, de Bach. Voilà, c'est ça, être un Afropéen comme moi. J'ai passé une partie maintenant de ma vie en Afrique, une partie en Europe, et j'y retourne tout le temps entre les deux. Et c'est ça qui crée, c'est ça qui inspire. Ouais.
Et quels sont les auteurs qui vous ont donné l'envie d'écrire et qui vous accompagnent encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, ça veut dire qu'ils étaient là depuis longtemps. Or, précisément, je crois que il y a une sorte de rotation. Ça veut dire que il y a des auteurs qu'on a connus beaucoup plus jeunes et qu'aujourd'hui on trouve que c'était bien pour cet âge-là, mm-hmm. mais on avance. C'est un peu du type. On parle souvent de littérature de gars, et moi je dis, je ne suis pas contre cela, du moment que ça permet à quelqu'un d'entrer, de mettre le pied dans l'amour de ses yeux ficelés, collés comme ça aux mots et aux images qui sortent, qui en sortent. Alors c'est bien de commencer même par, je ne sais pas, je ne vais pas citer des noms, mais de la littérature de gare et puis petit à petit s'ouvrir à cet univers. Et aujourd'hui, un ou deux auteurs que je pourrais citer, c'est Garcia Marquez, c'est Toni Morrison.
Et comment décririez-vous votre style d'écriture ?
Ah, ça, je n'y parviendrai pas, en tout cas pas aujourd'hui dans ces conditions. La question ne m'inspire pas.
La question piège, c'est ça.
Oh non, mais la question ne m'inspire tout à fait pas. Je préfère la laisser aux autres.
Très bien. Et du coup, quelles sont les thématiques qui reviennent constamment dans vos romans ?
Pour ceux qui m'ont lu, ils savent que les thématiques qui reviennent sont très souvent nord-sud, migration, noir, afro-queerness. J'insiste de plus en plus sur cela parce que je considère que le fait d'être noir, c'est déjà une identité qui a tout son poids. Mm-hmm. Être homosexuel, maintenant, si on localise, on met sur la carte un noir américain homosexuel, Baldwin, n'a pas tout à fait la même histoire qu'un noir afro-européen, Max Lobé, qu'un noir africain gay qui vit sur place. J'entends ça, cette dernière occurrence m'intéresse au plus haut point. Parce qu'il faut dire que ce n'est plus normal en 2021 que voilà, de jeunes gens soient obligés de fuir leur pays à cause des violences idiotes contre leur être, tout simplement.
Mais de quoi ça parle, la promesse de sa fade excellence ?
Excellente question. De quoi ça parle ? Un livre, normalement, ça parle de plein de choses. Alors, disons le pitch, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Akadewaita, Mr. Akadewaita, qui vit dans un quartier mal famé en République Falanclito-Royale de Crevetterie. Et il s'attable tous les matins dans un bar pour raconter des histoires. Et au fond de lui, il y a un fou qui prend une place démesurée et on ne sait pas si c'est au fond ou en dehors de lui, il y a une dame qui s'appelle Tata Pelagie qui a tout à fait son mot à dire dans sa tête. Peut-être fait-elle partir de son imaginaire qui lui permet, de son imaginaire, sa rêverie qui lui permet de raconter des histoires. Et je vais dire en tout dernier, parce qu'on ne parle pas souvent de lui, on parle d'Uncle God Bless Lui, mais le chien, Ngwale Batshwendi représente la justice avec sa perruque à rouleau poudré. Donc c'est ça le pitch du roman. Après, voyez-vous, de ce que je viens de raconter, quand on a dit ça, bah...
Mais il y a tout à découvrir après.
Bah voilà, quand on a dit ça, on n'a rien dit de ce roman. Donc, le truc, c'est que si vous êtes les seuls à pouvoir raconter ce livre, moi, je ne pourrais pas. Parce que dès que je commence, je ne sais pas par quel cigare commencer. Donc, je préfère me la rouler un bon, et puis je mets de la rumba et je danse parce qu'il y a tellement de portes d'entrée dans ce roman. Ouais.
Et est-ce qu'on pourrait décrire la promesse de sa fade excellence comme une fable satirique ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une fable satirique, peut-être même un recueil de fables satiriques. Mais alors, il faut savoir qu'il y a aussi des moments de respiration. J'appelle ça comme ça pour faire plaisir à certaines personnes. Mais c'est tout à fait prévu. Ça veut dire que le livre, en réalité, s'ouvre comme un one-man show. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à la fin du premier chapitre, ce fameux Mr. Akadewaita, il dit, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, les cabris, les petites brebis, et tout le monde va recevoir. Voilà. Donc, ça peut être un one-man show, ça peut être une satire, ça peut être du burlesque. Pour les âmes sensibles, il peut y avoir de la défécation. Je ne sais pas qui n'en fait pas. Et ça, ce sont des techniques, ce n'est pas moi qui les invente. Il faut lire Henri Bergson, le philosophe, avec le rire, quand il l'explique, quand il le décrit, le mécanisme du rire. Voilà, ce sont autant de choses que je pourrais développer, mais l'idée essentielle, c'est de, comme j'ai changé mon approche à l'écriture, des heures et des heures, des nuits blanches de travail, pourquoi devrais-je le faire lire si facilement à un lecteur ?
C'est vrai. D'ailleurs, vous adoptez une langue pleine de fulgurance et un vocabulaire aussi, un champ lexical bien précis et propre à vous, comme sa phale excellence, sa clitaltesse, clitarico, phalanus, phalamparition, bouchanus. Hein. Un vocabulaire, on va quand même le dire, teinté de grivoiserie pour être poli à la radio. Mais pourquoi tout ce langage propre à ce roman ?
C'est quand même incroyable. Elle vient de faire une brochette de mots quand même incroyable, et puis elle parle de grivoiserie à la radio comme si elle essayait d'éviter, alors qu'elle vient pratiquement d'être prise la main dans le sac, peut-être le voulait-elle. Mais oui, c'est le mot exact, la grivoiserie, parce que je veux parler peut-être dans l'ensemble du côté LGBT, dans l'ensemble, c'est de la langue, parce que on ne va pas parler de la langue ce soir, je pense qu'on n'en finira pas. Donc, la grivoiserie, mais aussi la grivoiserie parce que c'est une forme polie de parler. On peut être tout à fait, j'entends, comment je vais dire ça, carnavalesque, comme ça l'est, parfois dans le test, et puis dire pipi caca, comme ça peut être tout à fait recherché, pour dire je ne sais pas quoi, j'ai rien à inventer là maintenant. Mais tout ça, c'est en réalité le travail de la langue. Quand je parle de nuit blanche, de temps de rêverie, c'est des heures et des heures et des heures pour produire 140 pages. En rigolant, j'ai envie de dire que c'est de l'horlogerie suisse.
C'est de la minutie.
C'est de l'horlogerie genevoise. Tout le monde aura compris la blague. Je trouve que c'est beaucoup de travail sur la langue parce que c'est mon matériau premier, voyez-vous. C'est comme si un pâtissier s'amusait avec sa pâte.
Et vous utilisez du coup un langage très parlé dans votre roman, comme s'il devait se lire à haute voix ou même cri-hurler, pour vous citer. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que votre roman est une histoire qui doit se dire plutôt que de se lire ?
Vous venez d'utiliser deux termes, parler à haute voix, et puis derrière vous avez utilisé un terme que j'invente moi qui est cri-hurler. Alors quand on met à haute voix d'un côté et cru-hurler de l'autre côté, je pense que tout le monde a une sensation différente par rapport aux deux occurrences.
C'est vrai.
Ça, c'est le travail. Concrètement, je viens de donner un exemple concret du travail de la langue. Au lieu de dire elle avait envie de parler à haute voix, je dis elle avait envie de crier et même de cri-hurler. Ça, c'est le travail de la langue. Après, il faut chacun doit savoir quel est son métier. Je pense que ce livre, on peut le lire tout à fait dans sa mémoire, tranquillement, mais il est quand même fait pour être dit à haute voix. Et je prends là en référence Rabelais, Gargantua, Pantagruel. Ce sont des livres que tant qu'on ne les écrit pas, tant qu'on ne les hurle pas, tant qu'on ne les lit pas avec toutes les manières de déglacerie possibles, ça ne pénètre pas. Voilà, il faut baver un peu pour lubrifier.
Je crois que je vais retenir cette expression. Bon, à part ça, dans cette histoire, hormis ça, on suit l'histoire d'Akada Arita, qui est...
Akada Arita.
Ah, excuse-moi, je n'ai pas l'accent.
Il faut avoir l'accent précisément nigérian pour dire ça. Akada Arita.
Akada Arita.
Voilà, parfait.
Qui est donc raconteur d'histoire de la République de Crevetterie. Et en Afrique, hein, y a quand même toute cette coutume de conte ancestral et de raconteur d'histoire. Est-ce que vous vous considérez comme un raconteur d'histoire?
C'est ma profession.
C'est votre profession.
Ben, c'est ma profession. Mais c'est là encore, on va parler de la langue. On sait combien les métiers ont changé de nom depuis, en tout cas, ces dernières décennies, avec cette volonté de féminiser tout, de tourner autour de la question sans jamais aborder la question elle-même. On pourrait parler, par exemple, on est en période de sortie de Covid, espérons, croisons les bras, les doigts, prions. On ne parle pas assez du travail qu'ont fait les femmes noires dans les EMS, dans les hôpitaux comme infirmières. Et au lieu de dire, je ne sais pas moi, femme de ménage ou infirmière, le terme qui correspond pour qu'on voit la valeur du travail, on parle de technicien, de surface, de tout ça. Donc, raconteur d'histoire, pour moi, correspond davantage à ce que veut dire écrivain. Voilà.
Et sinon, est-ce que vous avez d'autres projets en vue pour la suite?
J'aimerais trouver un copain.
C'est un projet de vie.
Ah bah, c'est pour le moment, bah pardonnez-moi, c'est un projet de vie pour le moment et c'est même un projet très important parce que avoir quelqu'un dans sa vie, ça peut renouveler l'énergie. Ça peut renouveler, mais après quand je dis quelqu'un, ça pourrait être aussi tout aussi un labrador, une minette. J'ai pas forcément besoin de phalanus ni de clitarico. Hein.
Alors, cher auditeur, si vous êtes intéressé, Max Lobé est célibataire. Ou alors, si vous avez un chien à donner, il est preneur aussi.
Pour les chiens, oui, mais pour le reste, le casting est fermé.
En tout cas, merci beaucoup, Max Lobé, d'être venu jusqu'au studio. C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis, j'espère tout bon pour la suite. Et puis, plein d'imagination et d'autres histoires à nous raconter. J'espère bientôt, en tout cas.
Un gros bisou.
Au plaisir. Radio Vostok. .ch